Nous lirons ce matin un texte dans le livre de Daniel. Au chapitre 5, à partir du verset 1er, et on verra. Le roi Belshazzar, Daniel chapitre 5, verset 1er, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et but du vin en présence de ces 1000. Belshazzar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor selon certaines versions, avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Verset 5. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient ou se heurtaient l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les Chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette inscription et m'en donnera l'explication, sera vêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi le roi Belshazzar fut tout à fait épouvanté, il pâlit et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne t'épouvantent pas, tu n'as pas besoin de pâlir, il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, c'était le roi ton père. Parce qu'on a trouvé chez lui, chez ce Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Et puis au verset 13, « Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « « Es-tu ce Daniel, l'un des déportés de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ?» Et puis on va faire un bond, pour écourter la lecture, jusqu'au verset 23. « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison, et vous avez bu du vin, toi et tes grands, les femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui n'ont pas la connaissance. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a traversé cette écriture, qui a tracé cette écriture. Verset 25, voici l'écriture qui a été tracée, méné, tekel, upharsine. Et voici l'explication de ces mots. Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsine, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Jusque-là, la lecture. Quelques mots sur le contexte. Daniel est issu d'une famille noble. On voit ça au début du chapitre 1er du livre de Daniel. Il fut fait prisonnier et amené captif à Babylone lors de la première des trois invasions chaldéennes sous Nebuchadnezzar durant le règne du roi Joachim. Alors Daniel avait 16 ans lorsque a eu lieu cette invasion. Et il a vécu au moins jusque l'âge de 90 ans, exerçant des fonctions importantes sous les rois donc Nebuchadnezzar, Nabonide, Belshazzar, Darius et puis Cyrus. C'est du bon monde, tout ça. Alors Daniel a aussi enfin assisté à la fin, à la chute de l'Empire babylonien et à l'établissement de l'Empire médo-perse. Et à l'image de Joseph, Daniel avait un don particulier, à savoir celui d'interpréter les songes, d'interpréter les rêves. Alors notre histoire se déroule approximativement vers l'an 538 avant Jésus-Christ. Dans la ville de Babylone qui était au fait de sa gloire à cette époque-là. C'était une ville somptueuse. Et John Alexander, dans son commentaire, mentionne l'historien Hérodote, selon lequel les murailles qui entouraient cette ville étaient hautes de 55 mètres de haut. On ne sait pas, je ne sais pas si on peut s'imaginer ça. Et selon d'autres sources, elle faisait presque le double, 100 mètres de haut. Une forteresse inimaginable. Et elle faisait 30 mètres de large. Donc des chars pouvaient même y rouler dessus. Elle était surmontée aussi de 250 tours de guet, cette forteresse. Elle était imprenable. Elle défiait les armées étrangères et les pillards. Qui aurait osé s'attaquer à une telle forteresse ? Et puis Hérodote, donc l'historien, poursuit en décrivant la ville en ces termes, les fameux jardins suspendus de Babylone, l'une des sept merveilles du monde antique, faisaient la renommée de la ville. Il y avait des terrasses en gradins comme ça, dans lesquelles poussait toute une série d'espèces végétales des plus rares, avec des fleurs somptueuses, et tout cela était irrigué. Tout ça a été arrosé par un système d'irrigation sophistiqué pour l'époque. Une merveille, une ville somptueuse. Et c'est donc dans cette ville-là que le roi Belshazzar va organiser un grand festin. À cette époque-là, les festins pouvaient durer des jours, et ça va durer plusieurs jours. Le livre d'Esther en mentionne un qui va durer 180 jours, si vous vous souvenez. Imaginons un petit peu que le mariage, la fête de mariage de Rosemary et de Christophe dure pendant 180 jours, une demi-année, presque 6 mois. C'est très fatigant quand même. Hein ? Oh là là, la digestion. Festin cependant, qui tournera en beuverie et en orgie. Et lorsque les convives sont échauffés par le vin, on le sait, les pires scandales, les pires drames peuvent arriver. C'est ainsi, par exemple, que Jean-Baptiste fut décapité à l'occasion de l'anniversaire d'Hérode. Et dans l'ivresse du vin, Belshazzar va commettre une bévue monumental, phénoménal. Il va faire apporter les ustensiles de la maison de Dieu à Jérusalem que son grand-père Nebuchadnezzar avait emportés, et il va les utiliser avec ses convives comme ustensiles pour des réjouissances malsaines. Son grand-père Nebuchadnezzar avait au moins eu la délicatesse, le respect envers Dieu de placer ses ustensiles dans la maison des trésors de son Dieu, mais aucun respect de la part de Belshazzar, qui va utiliser ses ustensiles, qui va profaner finalement ses ustensiles en les utilisant comme objet, comme récipient de réjouissance malsaine. C'est comme si, avant, on prenait la coupe, c'était une seule coupe, et on la passait de rangée en rangée. Et c'est comme si on utilisait ces coupes qui étaient consacrées à un service particulier, à la commémoration de la valeur du sang de Jésus-Christ, en mettant une bière dedans et en se rafraîchissant. Ça n'a pas été prévu pour cet usage. Ou bien, c'est comme si on mettait des petites gouttes dans les verres maintenant qu'on utilise pour partager la... Mais quelle profanation, finalement. Ou bien, c'est comme si on consacrait ce lieu qui est consacré à l'adoration de Dieu pour une fête ou des festivités mondaines, ou même en écoutant une musique étrangère à la louange que nous sommes censés apporter à Dieu. Et suite donc à ces déboires, suite à ces excès, la colère de Dieu va se manifester. Et c'est alors qu'au milieu de ces festivités va apparaître une main solitaire séparée de son corps. Sûr de lui l'instant auparavant, Belshazzar va être terrorisé, pétrifié. Et l'inscription murale qui s'ensuit va semer également la panique dans ce lieu de réjouissance. Le texte nous dit que le roi change de couleur. Les jointures de ses reins se relâchent. Il devient blême. Les articulations de ses hanches se relâchent. Il vacille, il risque de tomber tellement il est pris de panique, d'angoisse. Et ses genoux se heurtent l'un contre l'autre. C'est finalement une véritable description d'une crise de phobie, d'angoisse. Quelle pourrait être notre réaction si, lors d'une fête familiale, en présence de nos amis, une fête de Noël ou de Nouvel An, nous verrions tout à coup apparaître sur l'un des murs de notre salon une main solitaire écrire une inscription mystérieuse sur le mur. Il y aurait certainement une chape de plomb, un silence, et on ne serait certainement pas à l'aise. En tout cas, Belshazzar, lui, ne l'était pas du tout. Alors, certains critiques ont tenté d'expliquer le phénomène surnaturel de l'inscription sur le mur en liant d'une part l'apparition de cette main à la projection du chandelier sur le mur par la lumière vacillante des flammes, ce qui donnait l'impression de l'ombre d'une main qui bougeait. Et deuxièmement, d'autre part, par l'état d'ivresse de Belshazzar aux facultés diminuées. Mais ces explications semblent pour le moins peu convaincantes. Pourquoi ? Eh bien parce que rien n'enlève le caractère surnaturel de l'inscription murale qui apparaît bien sur le mur. Et puis d'autre part, les archéologues ont découvert sur une tablette de cire ou d'argile, gravée en cunéiforme, l'inscription suivante: « Si l'extrémité d'une main apparaissait, le pays serait donné aux pillards. Le pays serait livré aux pillards. Alors on ne sait pas évidemment si cette tablette d'argile est antérieure ou postérieure au récit du livre de Daniel, mais toujours est-il qu'elle pourrait confirmer à sa manière le texte biblique. Alors pour en revenir précisément au texte biblique, Belshazzar est épouvanté. Et cette épouvante se trouve accentuée par le fait que ces sages, les sages de son entourage, sont incompétents pour déchiffrer le sens de l'inscription murale. Alors, suite à l'impuissance des sages, la reine, qui est probablement la reine mère, voire sa grand-mère, l'épouse de Nebuchadnezzar, se souvient de Daniel, dont elle connaît les qualités, dont elle connaît la sagesse, dont elle connaît l'intelligence, dont elle connaît l'esprit supérieur, et elle va proposer au roi de faire appel au service de Daniel. Et Daniel, donc, va être introduit à la cour du roi. Et le roi va s'adresser à Daniel, non pas en l'appelant par son nom chaldéen, pourquoi ? Parce que il ressemblait trop au nom du monarque. Tous les deux s'appelaient, c'était deux homonymes, tous les deux s'appelaient Belshazzar, n'est-ce pas ? Et donc, il va l'appeler par son nom juif, Daniel. Peut-être veut-il montrer par là aussi l'humble origine juive de Daniel. Toujours est-il que, en échange de son service, eh bien, Daniel va recevoir un vêtement pourpre, couleur pourpre, un collier en or, ainsi que la troisième place dans le gouvernement du royaume. Et c'est ainsi que, par l'esprit du Dieu vivant, Daniel va donner la signification de cette inscription qui s'affiche sur le mur. C'est normal que les augures, que l'entourage du roi Belshazzar fût incapable de traduire le message, puisque l'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il a besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de l'Esprit. Daniel a l'Esprit de Dieu et va, par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, traduire ce message. Tous ces mots viennent de l'araméen. Mene, mene, tekel, et upharsin, ou farsin, selon certaines versions. Alors, si vous le voulez bien, on va observer succinctement la signification de chacun de ces mots. Mene, ça signifie compter. Compter. Et la force du message, elle est amplifiée par la répétition du verbe. Compter, compter. Un commentateur explique, logiquement d'ailleurs, que le verbe compter peut avoir deux sens. Il peut signifier donc chiffrer, recenser, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais il peut aussi vouloir dire fixer les limites de, comme c'est d'ailleurs le cas dans l'expression « les jours de cet homme sont comptés ». Il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Belshazzar s'est élevé de la manière la plus injurieuse contre Dieu, le Seigneur des cieux. Or, on ne se moque pas de Dieu. Aussi, le châtiment du roi est arrêté et ne tardera pas. Daniel explique clairement la sanction au verset 26 que nous avons lu. Hein. Comptez, ben Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Dieu a compté ton règne et y a mis un terme. C'en est fini pour toi. Quelle lecture tragique pour Belshazzar, qui n'a pu profiter de son vivant pour connaître et pour servir Dieu. Et ceci nous amène à réfléchir sur la longueur de nos jours sur cette terre, la durée de nos années sur cette terre. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Alors, la Bible, à de nombreuses reprises, mentionne le fait que la vie est passagère, la vie est éphémère. On cite bon nombre de ces versets bibliques dans le cadre d'oraisons funéraires lors d'enterrements. Et ainsi, par exemple, Jacques, dans son épître, dit que notre vie est semblable à une vapeur. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis qui disparaît. On a déjà mis de l'eau dans une casserole chauffée, puis on voit la vapeur quand l'eau est en ébullition qui monte, puis dès qu'on coupe le feu, tout doucement la vapeur se dissipe, elle disparaît. Ainsi en est-il de notre vie, ainsi en est-il de la longueur de nos jours sur cette terre. Où, vous savez, les enfants, ils aiment bien d'approcher les vitres des fenêtres avec leur bouche et ils soufflent. Comme ça. Et puis ils font des petits dessins, des petits yeux ou une petite bouche. Et puis, quelques secondes après, cette buée disparaît. Ainsi en est-il aussi de nos jours. La vie est si courte. La vie est si courte, n'est-ce pas? La mort, elle ne prévient pas quand elle frappe. Elle est inopinée. On peut être en bonne santé et puis être foudroyé par une maladie ou être foudroyé par la mort. On peut malheureusement connaître un accident tragique qui nous enlève de la terre des vivants, en quelque sorte. La vie est quelque chose de bien éphémère. Aussi, devant cette réalité, devant la réalité de notre vie si éphémère sur la terre, l'apôtre Paul nous encourage, nous invite dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, si je ne me trompe, à racheter le temps. Racheter le temps. En gaspillant notre temps, parfois, à des choses vaines, à des choses futiles, à des choses qui n'en valent pas la peine, en étant oisif, en restant une journée entière le long d'un étang en train de pêcher. Mais c'est beau, c'est bien, c'est légitime d'avoir des distractions, bien sûr. Mais parfois, il nous faut aussi savoir faire preuve d'équilibre dans la gestion de notre quotidien. Avoir un temps pour chaque chose. Racheter le temps. Bien organiser son temps. Et puis, il y a aussi le psalmiste au psaume 9, verset 12, qui, lui, nous encourage à bien compter nos jours. Est-ce que nous comptons bien nos jours? Le temps est si précieux, le temps est si cher. Comptons-nous bien nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est obéir à sa loi, se soumettre à sa volonté, se soumettre à ses commandements. Voilà des choses qui sont importantes aussi. Voilà des choses qui sont importantes. Que faisons-nous de notre temps si précieux? Avons-nous des journées équilibrées? Belshazzar, lui, en tout cas, eh bien, il a vécu dans l'insouciance et l'indifférence par rapport à Dieu, à l'égard de Dieu. Quel temps de nos journées consacrons-nous, mettons-nous à profit pour servir notre grand Dieu, pour rechercher sa face, pour l'écouter, pour lui parler, pour chercher sa volonté, pour essayer de suivre le plan qu'il a pour chacune de nos vies, pour le servir. Il y a tant et tant de choses à accomplir pour le Seigneur. Il y a tant et tant de choses à accomplir pour l'œuvre de Dieu, tant et tant de choses à accomplir dans l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin des chrétiens. Quel temps, quelle partie de notre temps accordons-nous pour la cause de Dieu ? Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Le temps est précieux, le temps est court. Comment le gérons-nous ? Comment gérons-nous notre temps ? Deuxième mot mystérieux, c'est le mot mene, tekel. Alors tekel, ça vient d'un verbe qui veut dire peser. Peser. Le livre égyptien des morts nous montre que le défunt était conduit par le dieu Anubis au pesage. Là, Anubis mettait sur un des plateaux de la balance une petite boîte qui symbolisait le cœur ou les actions du défunt. Et sur l'autre côté de la balance, il mettait une plume, Maat, qui symbolisait la justice. Et en dessous, il y avait un monstre qui attendait les âmes méchantes. Et puis le dieu Thoth, ensuite, inscrivait le résultat et l'âme juste était conduite dans le duat, dans l'au-delà. Alors je ne sais pas si les Babyloniens avaient ce genre de croyance. Peut-être qu'ils avaient ce genre de croyance. Toujours est-il que Daniel, lui, définit Tekel comme suit au verset 27, « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. En fait, cette notion de pesage, elle est aussi présente dans la Bible. À plusieurs reprises, on retrouve des versets qui mentionnent cette notion de balance, cette notion de pesage. Ainsi, par exemple, au psaume 62, verset 10, nous lisons « Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. » Et puis, au proverbe 16, verset 2, « Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Puis au proverbe, verset 21, verset 2, « Celui qui pèse les cœurs, c'est encore l'Éternel. » Et puis dans 1 Samuel, au chapitre 2, verset 3, « Par lui sont pesées toutes les actions. » C'est donc une chose certaine. Notre vie, nos œuvres, nos actions, nos actes, Dieu va les évaluer. Dieu va les considérer. Alors, bien sûr que nous échappons au grand jugement dernier où tous les impies seront condamnés, bien heureusement. Et il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1. Et heureusement, amen. Mais la Bible, si elle nous dit que nous échappons par pure grâce à ces dernières grandes assises, eh bien, elle dit aussi avec autant de force que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ où nos œuvres, nos actions seront évaluées pour savoir si nous méritons une récompense ou pas. Nous aurons effectivement tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Et en de nombreux endroits, on voit, j'écourte un petit peu, parce qu'on nous l'a demandé. Mais en de nombreux endroits, on voit que la parole de Dieu nous encourage à la pratique de bonnes œuvres. Ainsi, par exemple, 2 Timothée 2, verset 21. « Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, propre à toute bonne œuvre. » Et souvenons-nous aussi de ce verset bien connu d'Éphésiens, chapitre 2, n'est-ce pas ? Chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2, 8, 9 et 10. L'apôtre Paul dit dans ce verset, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Ça ne vient pas de vous, vous n'avez rien à faire là-dedans, à voir là-dedans. Mais c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et puis au verset 10, qu'est-il dit ? Ben, il est dit, il est ajouté, que Dieu a préparé à l'avance des bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Nous sommes parfois effectivement devant des circonstances qui nous invitent à la pratique de bonnes œuvres. Dieu les a préparées à l'avance pour nous. Ingrid me racontait, il y a quelque temps, pas si longtemps, elle sortait d'un magasin et puis elle a vu, n'est-ce pas, une dame qui était chargée de ses courses et elle boitait. Tu te souviens ? Elle boitait, elle claudiquait, elle avançait péniblement. Elle avait une canne dans une main. Elle n'était pas si vieille que ça. Hein. C'est relatif de toute façon la vieillesse. Et elle s'est approchée de cette dame et elle lui a proposé de la raccompagner chez elle. Alors cette dame-là, elle était aux anges. Elle dit, oh merci madame, vous êtes un ange. Je ne sais pas si c'est un ange, mais... Aïe, aïe. Mais voilà. Dieu a préparé à l'avance des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions. Et ces bonnes œuvres, elles feront l'objet d'une évaluation lors du tribunal de Christ. Elles seront pesées, elles seront évaluées, elles seront appréciées. Par lui, 1 Samuel chapitre 2 verset 3, sont pesées toutes les actions. La vie dissolue de Belshazzar a fait peser la balance du mauvais côté. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Combien pèserons-nous dans la balance de Dieu ? Quelle sera l'évaluation de nos actions ? Et puis le dernier mot, c'est Méné, Méné, Tekel et puis Upharsin. Alors, Upharsin, ça signifiait, au verset 28, que le royaume allait être divisé pour être donné aux Mèdes et aux Perses. Cette somptueuse, cette magnifique cité dont nous faisions la description et l'éloge en introduction, eh bien, sera néanmoins, cette nuit même, victime de la sanction divine. Exactement comme l'avait prédit le prophète Jérémie au chapitre 51, verset 53, qui nous dit « Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, tellement les murailles étaient hautes, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. » Et un petit peu avant, au verset 39 de ce même chapitre, on pouvait lire « Quand ils, les hommes de guerre, seront échauffés, je les ferai boire, je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. » Le verset 30 du chapitre 5 du livre de Daniel, que nous n'avons pas lu, montre donc le parfait accomplissement de cette prophétie de Jérémie. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Et pour marquer la promptitude du jugement de Dieu, Apocalypse 18, verset 10, souligne ceci, « La grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. » Rien ne résiste. Rien ne peut résister au jugement de Dieu. Comptez, pesez, divisez. À travers cette sanction décernée à Belshazzar il y a 26 siècles, Dieu nous invite à réfléchir sur la qualité de notre vie chrétienne, sur la qualité de notre vie spirituelle, à faire le point sur notre vie spirituelle, sur notre vie de chrétien. Nul d'entre nous ne connaît la durée de sa vie sur cette terre. On ne sait pas quand on va partir de cette terre.